Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Antoine Robitaille.
Il connaît tous les dessous de la politique.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Là-haut sur la colline.
Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, il y a 10 ans, François Legault, dans son livre « Cap sur un Québec gagnant », rêvait de zones d'innovation où les universités et les entreprises privées vivraient en synergie afin d'améliorer la créativité du Québec. En 2022, deux de ces zones ont vu le jour, une à Sherbrooke, l'autre à Bromont. Mais dans le concret, comment ça se présente? Qu'est-ce que ça mange en hiver, une zone d'innovation? Le député caquiste de Bécancour, Donald Martel, responsable de ce dossier, nous en parle. Mais d'abord, discutons de l'actualité politique brûlante avec un député de l'opposition.
Antoine Robitaille, le véritable troisième lien. Le Salon Bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics.
Sitôt déposé, le projet de réforme de la santé du ministre Dubé suscite des critiques sévères. Même mon prochain invité, qui a la réputation d'être un gentil, l'a fustigé ce matin. C'est Joël Arsenault. Bonjour.
Bonjour.
Porte-parole du Parti québécois en matière de santé.
Ouais, donc, c'est ça. Je ne voudrais pas perdre ma bonne réputation.
C'était pas mal dur ce matin. Orwellien. Pourquoi vous parliez d'une situation orwellienne?
Ben, en fait, on est surpris par l'ampleur de la réforme que veut mener M. Dubé, puis à vouloir trop en faire, peut-être qu'on va perdre l'essentiel. Puis la raison pour laquelle je parlais d'Orwell, c'est qu'on semble dire une chose et faire le contraire, ou faire croire une chose et dans les actions, faire essentiellement le contraire. Par exemple, dire qu'on va instituer un nouveau mode de gouvernance décentralisé, alors que il s'agit de former une nouvelle agence qui va être dirigée par un seul CA centralisé à Québec, on le suppose, alors qu'aujourd'hui, on a des conseils d'administration régionaux qui ont perdu du pouvoir là avec la réforme Barrette, mais là, on les fait disparaître. Moi, je vois pas comment on décentralise en centralisant, par exemple, l'administration ou la gestion des soins de santé à travers une agence qui sera dirigée par des top guns du privé. Alors moi, c'est de faire dire le contraire au mot qui est positif, celui de la décentralisation. C'est comme pour l'imputabilité. Puis on pourra entrer dans les détails tout à l'heure, mais on a l'impression avec la structure qu'on va mettre en place que les gestionnaires du système de santé n'auront jamais été aussi peu imputables face à la population. Est-ce qu'ils seront imputables face au ministre? Sans aucun doute. Mais est-ce que le ministre, lui, répondra à nos questions lorsqu'on lui parlera des opérations, puis qu'il dira « Moi, je suis pas là pour éteindre des feux », comme il l'a dit il y a à peu près un mois. C'est pas moi qui est responsable des opérations. Moi, je dicte les grandes orientations. Mais est-ce qu'on perd pas un peu d'imputabilité? Donc, c'est là...
Est-ce qu'on a perdu l'imputabilité du ministre du Revenu, par exemple, en créant l'Agence du Revenu? Avez-vous cette impression? Parce qu'il y en a une, l'Agence du Revenu, qu'on a créée.
Moi, j'ai pas l'impression que l'Agence du Revenu est très parlable si on est aux prises, si on a des démêlés avec l'Agence du Revenu. C'est un peu comme... J'ai l'impression qu'on prend au Québec la voie empruntée par le gouvernement fédéral dans bien des secteurs où on a l'impression là d'une déconnexion avec les gens sur le terrain. Puis on fait appel parfois à des députés qui nous disent « Écoutez, nous, l'agence amène son petit train, là, puis on n'a pas un mot à dire parce qu'on ne peut pas faire d'ingérence politique. » Alors, si on n'est plus capable d'avoir de réponse des gestionnaires locaux parce qu'ils disent « Moi, je réponds pas aux citoyens, je réponds même pas là, aux demandes du personnel, je réponds à mon patron en haut à Québec », on aura perdu le contrôle sur notre système de santé publique.
Est-ce que on peut faire un parallèle avec les centres de services scolaires où justement il y avait un palier responsable élu, même s'il n'y a pas grand monde qui participait aux élections, au moins on avait quelqu'un là, à qui on pouvait poser une question. Un président de commission scolaire, là, ça remonte à Québec tout de suite, mais...
Exactement.
Il y a un parallèle à faire.
Ben, un parallèle qu'on voit directement, et c'est écrit en toutes lettres dans le projet de loi 15, c'est qu'on transforme des conseils d'administration en conseils d'établissement. Les conseils d'établissement, c'est ce qu'on a fait dans les commissions scolaires ou dans les écoles. Mais un conseil d'établissement, ça a pour fonction, justement, d'échanger des idées avec la direction d'école, par exemple, qui n'a absolument aucune obligation de rendre des comptes ou de retenir quelque idée que ce soit. C'est simplement un partage d'informations et d'expériences. Alors qu'un conseil d'administration, normalement, c'est le patron, il y a un directeur qui travaille pour le conseil d'administration. Mm-hmm. Ce palier-là là, de gouvernance, il a déjà sauté avec la réforme Barrette. Là, on le fait carrément sauter dans son pouvoir, c'est-à-dire. Là, on le fait carrément disparaître. Et c'est là que je pense qu'on va avoir une mainmise à Québec sur... l'espèce de la gestion en général des opérations, mais est-ce que la qualité ou l'humanité des services va nécessairement en ressortir mm-hmm. grandie? Est-ce que la voix de l'usager ou de l'acteur là, de premier plan, les professionnels en soins, va être entendue? Certainement, là, il n'y aura pas d'obligation à cet égard. Et moi, j'en veux par exemple pour preuve que dans les régions, dans les communautés, on peut avoir des services, par exemple, en CLSC ou dans des hôpitaux communautaires qui soient différents dans l'approche, qu'on soit en Abitibi, qu'on soit à Hochelaga-Maisonneuve ou qu'on soit aux Îles-de-la-Madeleine. Mais pour ça, il faut faire valoir les besoins de la communauté, les besoins socio-économiques, épouser un peu.
Mais êtes-vous d'accord avec certains aspects de la réforme? Comme,
oui, mais là, ce qu'on parlait de gouvernance.
Une ancienneté nationale?
Bien, c'est ça. Là, si on veut parler
de... Est-ce que ça tombe pas sous le sens, il me semble?
Bien, oui. Puis c'est l'exemple qu'on donne à chaque fois. C'est que si on s'est donné des cadres trop rigides dans la mobilité de la main-d'œuvre, disons, puis qu'on veuille les réviser, absolument, on est partant pour trouver de meilleurs mécanismes. Mais est-ce qu'on avait besoin d'un projet de loi de 1200 articles qui transforme là, le mode de gestion pour arriver à cette fin de permettre aux gens qui travaillent pour le réseau de la santé dans un établissement d'aller travailler dans un autre établissement du même réseau de la santé? Moi, j'ai un doute. Est-ce qu'on avait besoin de faire cette grande réforme-là? Même chose pour la responsabilité populationnelle des médecins spécialistes. Mm-hmm. D'ailleurs, ça a été leur réaction de dire... Ben nous, on est bien d'accord de discuter de cet aspect-là, puis on pourrait négocier, puis on pourrait trouver un terrain d'entente, puis on n'a pas besoin d'une loi qui nous l'impose et qui impose bien d'autres choses aussi. Fait qu'il y a des éléments là-dedans qui sont certainement positifs et qui coulent sous le sens. C'est-à-dire qu'une personne qui a 25 ans d'expérience puis qui change d'établissement, ben on doit reconnaître son expérience, point.
Depuis hier, on dit que c'est une énorme réforme, un énorme projet de loi. L'avez-vous lu en entier, le projet de loi?
Non, absolument pas. Je vous cache pas que ce projet de loi-là, il va falloir des semaines pour véritablement en saisir toute la portée. Puis il y a peut-être des choses qu'on n'a pas encore découvertes qui seront très positive, mais dans l'esprit de ce qu'on nous a présenté sur le pouvoir qu'on veut donner à une agence qui n'aura pas de compte à rendre ni au public, ni à la sphère politique, aux législateurs. Moi, je trouve que c'est un geste qui est malheureux.
Mais c'est une idée qui circule depuis longtemps, l'agence. Là. Michel Clerc, dans son rapport « Les solutions émergentes » en 2001, proposait ça. C'est un ancien ministre du Parti québécois. Il disait qu'il faut dépolitiser la santé. Trop politisée, c'est vrai. Est-ce que c'est pas vrai que les ministres sont appelés à faire de la micro-gestion là, à l'Assemblée nationale là, pour telle personne qui n'a pas eu un soin dans tel hôpital?
Bien, moi, je suis pas certain qu'à l'heure actuelle, il y a une politisation du réseau qui fait en sorte que certains ont accès à des services, puis certains n'en auraient pas. Habituellement, quand on parle d'une politisation, c'est comme s'il y avait une intervention politique qui favorisait certains au détriment des
autres. Non, moi, je
voulais
dire, tout devient politique, tout devient partisan, au fond. Tout devient partisan.
Moi, en fait, je vois plutôt le système à l'heure actuelle qui est un système public et qui devrait avoir cette espèce de d'ouverture vers la communauté qu'il dessert. Et le politique, complètement hors de la partisanerie, devrait pouvoir veiller à ce que les choses se passent au mieux. Et si on voit qu'il y a justement des problèmes, mais qu'on puisse en parler, qu'on puisse le faire valoir auprès du ministère et notamment du grand patron, mais c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, pour vérifier si la machine s'est enrayée, si les gestionnaires prennent en compte les besoins de la population. Mmh. On le fait dans tous les secteurs d'ailleurs, mais c'est pas nécessairement pour avoir des privilèges. C'est pour régler souvent des cas citoyens ou des cas de circonscription qui sont importants et pour lesquels les gens n'ont pas de recours autre que de faire appel à ceux à qui, normalement, on rend des comptes.
Est-ce que c'est une réforme, Barrette, à visage humain?
Je souhaite que la réforme ait un visage humain. Actuellement,
parce que vous avez dit que c'est la continuation des réformes Barrette.
Ben, il semble définitivement que le ministre s'inspire des orientations de la réforme Barrette dans la réorganisation de la gestion des services. Monsieur Barrette lui-même semble s'approprier, si on veut, un peu les bases de la réforme qu'a présenté Monsieur Dubé. Monsieur Dubé,
est-ce qu'il n'y avait pas du bon dans ce que Monsieur Barrette voulait faire? C'est devenu comme un épouvantail, mais il voulait justement que les médecins donnent plus de services. Il voulait forcer avec ces fameux bâtons là, dans ces lois. Est-ce que c'était pas une bonne chose? Les Québécois, ils veulent des services, puis c'est ça qui est frustrant. Ils veulent de l'accès, ils veulent améliorer l'accès.
Bien, en fait, on est tout à fait au même endroit. Si on regarde le Napron, par exemple, parce que l'entreprise de communication est extraordinaire. Là, ouais. Disons-le, on n'a pas lésiné sur les moyens. Et M. Dubé est un habile communicateur. Maintenant, si on regarde le Napron qui nous dit, voici les objectifs qu'on poursuit. On peut pas être contre la vertu quand on nous dit qu'on va optimiser les services et qui seront axés sur la satisfaction des usagers. Bien sûr, si on veut un système plus efficace, c'est ça l'objectif général, bien sûr. Mais nous, actuellement, on a peine à voir le lien entre ces objectifs qui sont poursuivis et les moyens qui sont mis en place, qui sont essentiellement des moyens technocratiques pour mieux gérer comme on le ferait dans une entreprise privée. Ouais. Mais une entreprise privée n'a pas de compte à rendre à ses clients, n'a pas de compte à rendre à son personnel. Mm-hmm. Et là, c'est comme si, par une espèce de pensée magique, on disait, puisque ce sont des gestionnaires du privé, on va transformer le réseau en une espèce de grande entreprise qui va être hyper efficace puis qui va rapporter à tous. Je ne suis pas certain que c'est une médecine ou des services de santé qui vont être davantage humanisés, surtout si les premiers impliqués, ceux qui livrent des services, ne se voient pas revalorisés dans leur
rôle. Mais que feriez-vous, vous, Parti québécois?
Mais nous, on avait proposé, en fait, exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on voulait décentraliser pour de vrai, oui, en nommant des gestionnaires imputables sur le terrain, dans chacun des établissements.
Mais ça, c'est les régies régionales de l'époque de Marc-Yvan Côté qui ont été abolies ou transformées en agences par Philippe Couillard. Et ensuite, les agences ont été transformées en CIUS. Donc, on reviendrait à la réforme des années 90 ou 80 de Marc-Yvan Côté?
En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que si on veut renforcer la première ligne, nous, on pense que c'est à travers les CLSC. Alors, vous nous direz, oui, c'est une invention des années 70, mais qui n'a jamais été menée à terme parce que, justement, il y a eu toutes sortes de blocages. Nous, on pense que si on veut rendre des services à des communautés, il faut que ce soit des humains qui le fassent et qui le fassent avec une réduction de comptes envers les usagers. Et c'est pour ça, quand je dis qu'on voulait faire exactement l'inverse, plutôt qu'avoir un conseil d'administration à Québec, nous, on pense que les conseils d'administration, ils doivent être locaux et qu'ils doivent être la voix de la population et des usagers qui obtiennent des services. Et que le gouvernement, que le ministère...
Donc, une régie régionale, un peu?
Même sur le plan national, je pense qu'on a raison de dire que le ministère devrait fixer les orientations. Mais ce qu'on a vu au cours des dernières années, toutes les réformes avec l'abolition des régies régionales, puis ensuite des agences, urgences, puis ensuite des établissements rassemblés. On a concentré le pouvoir entre les mains d'un ministre qui doit répondre à peu près de tout, alors que au contraire, moi je pense qu'on devrait donner à la fois la responsabilité de gérer les opérations, mais également de rendre des comptes à la population et non pas être tourné vers Québec, vers le ministère. C'est là que moi, je pense qu'on fait fausse route. Les gestionnaires qui seront responsables des établissements à travers le Québec, est-ce qu'ils sont tournés vers le public ou ils sont tournés vers le ministre pour lui plaire ou pour plaire à la population, pour rendre des services à la population ou pour se rendre service, pour aspirer à de meilleures positions, à des promotions dans l'avenir? C'est cette machine-là qu'on est en train de mettre en place. Et moi, je pense qu'on prend une distance par rapport au lieu où on administre des soins.
Bien, on y reviendra, hein, parce que c'est un projet de loi, comme on l'a dit, énorme, plus de 1000 articles, et peut-être qu'on y trouvera des surprises ou, comme vous avez dit, des bons côtés. Alors, c'est certain qu'on va en reparler. Merci beaucoup, Joël Arsenault.
Merci.
Joël Arsenault est porte-parole du Parti québécois en matière de santé.